Et bonsoir, bienvenue en direct de la courte échelle comme tous les dimanches soirs à 19h. Ce sera 19h01 pour ce soir, nos excuses. Donc comme tous les dimanches, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler en direct via le fixe au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. Vous pouvez nous envoyer du courrier à l'adresse La Courte Échelle, Friche de la Belle de Mai, 12 rue de François Simon, 13003 Marseille. La Courte Échelle, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Ou alors nous écrire par mail à notre adresse mail la-courte-échelle@riseup.net si vous avez des... si vous êtes proche de personnes incarcérées ou personnes incarcérées et que vous voulez nous partager des témoignages, n'hésitez pas, on les lira. Et n'hésitez pas à préciser aussi si vous voulez qu'on les lise à l'antenne ou juste que vous voulez nous prendre contact avec nous et juste qu'on vous réponde. Les deux sont possibles. Et ce soir, nous sommes deux dans le studio.
Deux.
Il y a Liane, moi.
Et Ramzi, moi.
Et on va... grosse partie de l'émission va parler de l'affaire du 8-12. Que je vais rapidement réexpliquer ce que c'est juste après et on va passer un podcast compliqué à minuit décousu. Mais avant ça, on voulait
parler de... Ben, il y a eu une soirée hier soir, ce qui est bien pour une soirée, que ce soit le soir, à la fraternité, à la Belle de Mai, où on a pu discuter avec une prisonnière palestinienne qui a passé pas mal de temps dans les geôles israéliennes. Et je pense qu'on fera une émission spécialement sur ça pour décortiquer un peu la prison en Palestine et qu'est-ce qui peut être inspirant dans les luttes des prisonniers palestiniens pour les prisonniers en France.
Grave. Enfin, même en vrai, on en a déjà fait des émissions qui parlent de prisonnières palestiniennes. Mais notamment une avec Asya il y a quelques semaines.
Tout à fait.
Que vous pouvez aller réécouter en podcast si jamais vous avez accès à Internet et que vous n'êtes pas à l'intérieur. Mais
enfin, en tout cas, il y a fort chance qu'on écoute effectivement la voix de Asya parce que ce sera elle qui traduit, qui a traduit, et qui, etc. Mais on va essayer du coup de retransmettre, je pense, pas mal la parole de cette palestinienne.
Ouais, voilà. C'est cool si les échanges d'hier soir peuvent arriver jusqu'aux oreilles de personnes à l'intérieur, ça serait chouette.
Et dans cette soirée, il y avait aussi une présentation du comité Libéré Ali. Voilà, et je voulais juste un peu parler de ça pour un peu retransmettre ce qui s'est dit par la voix de ce comité. Et donc je voulais parler de Ali, qui est un prisonnier palestinien enfermé en France. Donc un peu l'histoire de Ali, c'est qu'il est né dans le camp de Balata, c'est à côté de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Donc c'est un camp de réfugiés, ce qui veut dire que sa famille, en fait, elle a immigré en 1948 pour se poser là, parce qu'il y avait eu la Nakba, en fait, qui est le nettoyage ethnique des Israéliens à cette époque-là, pour créer au maximum... pour repousser les frontières de la future création d'Israël. Donc il y a eu un nettoyage ethnique des Palestiniens qui ont dû fuir leur terre, leur village, leur maison, et qui sont arrivés dans des camps, souvent en Cisjordanie ou en Jordanie. Là, ce camp de Balata à côté de Naplouse, quand on dit camp, c'est pas... on imagine un peu des tentes quand on est occidental. Mais c'est un quartier, en fait. C'est un quartier juste collé à la ville, avec des grands immeubles en ciment. Et ces quartiers sont souvent mis sous pression par l'occupant israélien. Et voilà, en fait, Ali, il a vécu dans ce quartier-là, collé à Naplouse. Et en fait, à l'âge de 14 ans, Ali, il a vu son frère de 8 ans être tué par l'occupant, donc un soldat israélien. À 16 ans, il avait fait déjà de la prison. Il fera 8 ans en tout. Il faut savoir qu'en Palestine, quand on est palestinien, on est soumis à une cour militaire, cour martiale militaire, et qu'on n'est pas jugé du tout sous le même cour que les Israéliens, quoi. C'est ce qu'on appelle effectivement... l'apartheid, l'apartheid israélien, en fait, sépare si tu es palestinien ou israélien, tu n'es pas jugé de la même manière. Et quand tu es palestinien, il ne faut aucun chef d'inculpation, tu n'as besoin d'aucune raison pour être arrêté, si ce n'est de la suspicion. Voilà, et en tout cas, on ne te donne aucune justification. Et ce sont des peines de plusieurs mois renouvelables à l'infini. À la fin de sa troisième incarcération, Ali, en fait, il a été expulsé de Palestine vers l'Europe. C'était en 2016, où il a obtenu par la France le statut de réfugié. Il a fondé une famille, et en 2024, donc après le début du génocide à Gaza, il y a une perquisition chez lui assez violente où sa femme et lui sont arrêtés devant les yeux de leurs enfants. Suite à ça, sa femme a développé un cancer fulgurant dont les médecins lient carrément ce cancer à l'énorme stress qu'elle a eu. Ali, lui, il est toujours en détention provisoire. Donc c'était en 2024, on est en 2026. Ça peut durer jusqu'à 5 ans, hein, les tensions provisoires. Voilà, on lui a retiré le statut de réfugié. Alors c'est un statut qui normalement oblige la France à protéger Ali contre un pays qui lui veut du mal, donc ici Israël. Mais c'est Israël qui accuse Ali de faits, que s'ils étaient vrais, ces faits se seraient passés en Cisjordanie. Et la France lui retire quand même son statut de réfugié et le met en prison. Voilà, donc il y a le comité de soutien qui demande plusieurs choses. Le comité de soutien s'appelle Comité Libéré Ali, Libéré EZ. Et donc il demande la libération de Ali et le retour de son statut de réfugié. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour ça. C'est ben, déjà en parler, de la situation de Ali, relayer la campagne. Il y a une pétition aussi sur Internet. Il est possible de faire des dons aussi parce que les mandats, ça coûte cher. C'est combien un mandat à peu près au minimum
Je ne sais pas, je t'avoue.
Je crois que c'était un truc comme 600 euros, il me semble.
Enfin, en tout cas, ça coûte cher aussi parce qu'il y a des partis qui sont gardés pour... les partis libérables et les partis civils selon le seuil du mandat et du coup ça fait que tout n'arrive pas directement au prisonnier qui peut continuer derrière. Il y a une partie qui est retenue, enfin une bonne partie qui est retenue et en plus de ça, enfin les mandats, il y a une partie qui est prise mais quand t'es dans la prison ça coûte cher d'acheter des trucs puisque les cantines sont toujours très très chères.
Carrément. Et ensuite il faut aussi payer les avocats et puis l'appel. Bref, il y a aussi la possibilité d'écrire une lettre à Ali si vous avez envie. Il faut l'envoyer par mail à libere-libere-z ali @proton.me. Voilà, Ali donc il a subi comme beaucoup de Palestiniens et Palestiniennes une campagne d'intimidation israélienne relayée par la France. Et je voulais lire juste un petit passage d'une des brochures qui était à disposition à cette soirée sur la table du comité Libéré Ali, qui est juste un petit rappel de pourquoi la France choisit-elle de donner suite aux accusations rapportées par Israël. Donc la réponse qui est écrite dans la brochure, c'est que la criminalisation des réfugiés palestiniens et palestiniennes ne procède pas d'une absence de souveraineté de la France ou d'une soumission. C'est parce qu'Israël sert les intérêts des États impérialistes dans la région. Ces mêmes États apportent donc leur soutien diplomatique, militaire, politique et idéologique à ce projet colonial. Collaborant à la persécution des Palestiniens et des Palestiniennes jusque sur leur territoire. Cette politique de criminalisation des réfugiés palestiniens et palestiniennes vise aussi à silencier et réprimer toute forme de contestation. Elle constitue également le prolongement du durcissement des politiques à l'égard des réfugiés, des exilés et de toutes les personnes étrangères en Europe. Voilà, je trouvais que c'était important d'en parler là. On fera une émission, je pense, un peu plus longue sur ce sujet-là. Et je pense que ça fait un petit peu lien quand même avec comment on utilise la connotation de terroriste ou autre dans plusieurs affaires pour criminaliser, mettre sous silence, silencier, comme on dit, enfermé pas mal de gens pour pas qu'ils se mobilisent, qu'ils puissent s'organiser, lutter pour plus de, je sais pas, de justice, d'équité ou autre. Rappelons quand même que c'est un État génocidaire qui a fait ces accusations-là sur Ali et qui, lui, n'a à comparaître devant personne.
Mmh. C'est vrai que ça fait un peu le lien avec ce dont on va parler après, même si bon, c'est des proportions radicalement différentes, mais que dans l'affaire du 8-12, il y a aussi cet aspect-là d'un État qui a peur pour lui et qui décide de condamner avec à peu près rien des personnes. Et que, comme tu disais, Israël, par exemple, il fait exactement ça. Il n'a pas la même justice pour ses propres citoyens et les citoyens palestiniens. C'est une justice de guerre. Et s'il considère des personnes comme des menaces, la justice va être adaptée à sa politique de guerre, c'est-à-dire considérer que les personnes sont... Enfin, veut genre punir les personnes pour se protéger en tant qu'État. Voilà, en France, on en est rarement là en ce moment. Mais quand même, ça, il y a une ou deux affaires... on peut avoir cette lecture, notamment celle dont on va parler juste après. Mm. Oui, quand même, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est un peu une dinguerie de créer le statut de réfugié politique pour des personnes persécutées par un État, et sauf quand on est pote avec cet État, et du coup, bah, ouais. Du coup on les enferme nous-mêmes. C'est...
Oui, puis ça a des conséquences énormes sur les corps et sur la vie des gens. Il y a quand même... Dans la brochure, il rappelle un peu que ça a des conséquences sur les personnes réfugiées, qu'il y a des personnes carrément qui se sont aussi suicidées parce que peur de retourner dans le pays et autres. On est quand même censé protéger ces personnes-là et leur permettre de vivre correctement, et qu'en fait, en vrai, ça tourne vite à la persécution, à l'enfermement et à l'horreur dans les geôles françaises.
Donc en tout cas, grosse force à Ali.
Grave. Il est enfermé à Ouzni.
Ok.
Ouzni. 95,
je ne me trompe pas. Il y a une poll Instagram, si jamais vous voulez suivre. Comme on disait, il y a une campagne.
Comment ça se dit? Ouzni, peut-être.
Je ne sais pas. J'avoue.
Il y a une prison là, désolé.
Il y a une campagne de dons que... Là, je n'ai pas les liens sous les yeux, mais sans doute qu'on le donnera la prochaine fois qu'on en reparle. Et voilà. N'hésitez pas... à vous renseigner pour savoir comment vous organiser pour le soutenir.
Toi, ce que tu as trouvé, c'était sur Insta, c'est ça?
Oui, ça m'a impression que c'était une rapide recherche. Je pense qu'on peut trouver plus d'infos assez facilement. Mais le comité s'appelle Comité Libéré Ali, c'est assez facile à retenir. Et du coup, après ça, on va passer un podcast qu'on n'a pas fait nous, mais qui est sympa quand même, qui a été fait par Minute Décousue.
Et c'est sur le 8-12, tu disais.
Oui.
C'est ça. Moi, je connais pas très bien, du coup, peut-être que je te poserai des questions.
Ça marche. Dis-moi. Minute Décousue, c'est une autre émission de radio qui est sur Radio Canu, qui parle de plein de sujets différents. Radio Canu, c'est une radio associative, mais qui, elle, est à Lyon. C'est le Radio Galère de Lyon. J'ai l'impression, j'imagine.
C'est ça.
À propos de cette radio, si jamais, ce qu'il faut écouter de cette radio, c'est surtout La Petite Cuillère, qui est l'émission anticarcérale de là-bas, qui a lieu les 1er et 3e jeudi du mois de 20h à 21h. Les 1er et 3e jeudi du mois de 20h à 21h sur Radio Canu. C'est une émission anticarcérale. Ils ont aussi des podcasts que vous pouvez aller écouter sur leur page dans le site. Enfin, sur leur page, sur le site de Radio Canu. Donc voilà, si jamais vous êtes transféré là-bas ou que vous êtes libre et que vous allez de votre propre gré dans la région inhospitalière de Lyon, vous pouvez écouter cette émission. Mais Minute Décousue aussi, c'est sympa. Et donc, ils parlent de plein de sujets, pas que de Toll. Mais cette fois-ci, ils parlent notamment de Toll puisqu'ils parlent de l'affaire du 8-12. C'est un long podcast, c'est pas sûr qu'on va passer... qui est en deux parties, mais je pense que comme on a... qui dure une heure, on va peut-être pas passer l'intégralité de la première partie aujourd'hui, mais une bonne partie, et on fractionnera et vous écouterez la totalité répartie sur plusieurs émissions de la courte échelle. Le 8-12, en vrai, bon, le podcast revient un peu, mais je me disais que ça pouvait être pas mal de présenter un tout petit peu ce dont il retourne pour les personnes qui en auraient potentiellement jamais entendu parler. On en a parlé vite fait la semaine dernière. Ça veut dire que t'as pas écouté l'émission la semaine dernière?
Non, j'ai pas écouté l'émission la semaine dernière, je suis désolé.
Mais bon, là, genre, peut-être un Je vais faire un résumé synthétique et un peu contextualisé historiquement de cette affaire.
8-12, c'est par rapport à la date, du coup, le 8 décembre, c'est ça ?
Ouais, 8 décembre 2020, où les personnes ont été arrêtées. Mais...
2020 ?
Oui.
Wow.
Mais ça remonte à encore plus il y a longtemps. Ça remonte, okay. En vrai,
Ça commence quand, les gars ?
Je sais pas, ça commence jamais, parce qu'il n'y a pas d'histoire.
Ah bon ?
Mais pour l'État... en vrai, enfin, d'un certain point de vue, ça commence un peu quand une personne, à savoir Libreflow, est allée participer et soutenir le Kurdistan et le Rojava syrien fin 2017. Donc, il est allé, comme d'autres personnes françaises et de différentes nationalités, soutenir le Kurdistan dans sa guerre, enfin dans sa lutte pour garder des territoires et son indépendance de son peuple là-bas. Donc là, c'était dans le Kurdistan qui est en Syrie. Et fin 2017, et ils se battaient notamment contre Daesh, qui à ce moment-là avait pas mal de mains prises sur les bouts d'Irak et de Syrie, et du coup les Kurdes font partie des forces armées qui ont permis de faire reculer Daesh énormément dans ces zones. Donc voilà, et le fait que il y a Libreflow, donc une personne associée à la mouvance d'ultra-gauche qui sache manier des armes et qui a fait la guerre, ça a fait très très peur aux renseignements français. Donc, ils ont commencé assez vite à le suivre. Quand il est rentré en France, et à ouvrir une enquête autour de lui et de ses proches le 7 février 2020. Donc,
mais il peut balader avec Kalachnikov ou...
Non, juste... Ça partait un peu de rien. Ils avaient juste peur. Enfin, après, bon, l'interprétation est pas évidente à avoir, mais à savoir, il y a une enquête qui a été ouverte le 7 février 2020, quelques années après, autour de lui. Et ils disaient que cette personne voulait faire un groupe qui comptait commettre des attentats. Il faut savoir que les personnes, le seul point commun des personnes qui sont constituées ce groupe, c'est qu'elles connaissaient donc Libreflow, mais qu'entre elles, elles ne se connaissaient pas forcément. Genre vraiment, cette histoire est vraiment basée sur rien. Mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de moyens qui ont été mis dans cette affaire, beaucoup, beaucoup d'écoutes. Par la suite, à partir du moment où l'affaire a été lancée, ils ont les moyens de l'antiterror, quoi, parce que. Il y avait peur qu'il y ait ce groupe-là qui fasse des attentats, donc les moyens mis en œuvre ont été ceux du parquet national antiterroriste. Des écoutes, des relevés de bornage, de la surveillance plus, vraiment poussé à l'extrême. On en reparlera peut-être une prochaine fois et l'audio en parle un peu. Jusqu'au 8 décembre, donc le fameux 8 décembre 2020, où plusieurs personnes ont été arrêtés et perquisitionnés, d'où le nom du comité de soutien qui s'est créé pour se protéger contre cette répression d'État. Donc il y a 9 personnes dans différentes villes qui ont été perquisitionnées et arrêtées par la DGSI et par le RAID, qui ont fait des gardes à vue de 3 jours, tous et toutes. Et à suite desquels, il y en a 2 qui sont sortis de garde à vue sans charge, et donc 7 qui étaient encore dedans, et qui ont été mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. Donc il y a eu 7 mises en examen, dont 5 personnes qui ont été placées en détention provisoire, et les 2 autres ont été placées en contrôle judiciaire. Donc quand on dit mis en examen, ça veut dire qu'il y a une enquête qui a été ouverte et qu'il y a absolument tous les éléments de leur vie qui ont été considérés comme des éléments à charge, à savoir faire du paintball, avoir été artificier, avoir des livres de gauche chez soi.
C'est dangereux ça.
Ouais, ou alors ne pas avoir accepté tout de suite de donner les codes de son téléphone quand t'es en garde à vue. Faut savoir que les personnes ne savaient même pas qu'elles étaient arrêtées pour ça quand elles ont été arrêtées. Okay. Donc voilà, le fait d'être des personnes dangereuses, un peu politisées, et tout a été considéré comme ils préparaient des explosifs pour faire des attentats. Mais voilà, c'est un dossier dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de vent. Les personnes ont fini par être libérées après beaucoup de prison, c'est-à-dire plusieurs mois, ce qui fait beaucoup pour aucun fait. Certaines en avril 2021, d'autres en automne 2021, 2 et 2. Enfin, je veux dire, 2 en avril et 2 en automne.
Ouais.
Certains ont fait 5 mois, d'autres ont fait presque un an de détention provisoire avant d'être relâché. Et à la fin, il est resté libre Flo, qui lui est resté en prison et à l'isolement jusqu'en avril 2022. Donc en tout, il a fait 16 mois d'isolement.
C'est beaucoup quand même.
Ouais, ça fait beaucoup, surtout pour. Ça fait beaucoup même quand t'as fait un truc. Mais aussi quand t'as rien fait. Bref, y a toujours, la prison, c'est toujours trop.
Ouais, mais l'isolement, c'est quand même particulièrement violent, quoi.
Et il est. Enfin, un peu avant de sortir, il s'est mis en grève de la faim pour protester contre sa mise à l'isolement. Le 27 février, et il a tenu sa grève de la faim jusqu'au 4 avril.
Wow.
Suite auquel il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Bon, entre-temps, il a été hospitalisé, il a fait quand même plus d'un mois de grève de la faim. Et ça allait vraiment pas.
Il a été sorti de l'isolement suite à sa grève de la faim, quoi.
Oui, il a été sorti de l'isolement et placé sous contrôle judiciaire. Mais genre, pour une fois, ça a marché, quoi.
C'est quand même des pratiques extrêmement violentes pour les personnes elles-mêmes, quoi. Faire une grève de la faim et que des fois ça puisse fonctionner. Enfin, moi, je trouve ça assez fou et très courageux, en tout cas, des gens qui font les grèves de la faim pour essayer de sortir de l'isolement et d'un système carcéral très, très oppressif et qui casse les gens, quoi.
Ouais, grave. Et donc, bon, les sorties, ils étaient sous contrôle judiciaire. Et donc, à peu près un an après, le début, il y a eu le procès de cette affaire, c'est-à-dire en octobre 2023. Donc là, ils avaient été mis en examen, placés en prison. Et donc, bien après, 2 ans après le moment où ils ont été arrêtés, il y a eu le jugement pour lequel ils ont été arrêtés et placés en prison qui a commencé, parce que c'est comme ça que ça marche la justice, t'es souvent mis en prison avant d'avoir été jugé. Et bon, il y a eu une grosse déterre collective pour les soutenir pendant le procès, il y a beaucoup de personnes qui sont allées y assister. Et le 22 décembre, enfin donc, en octobre 2023 ça a commencé, le 22 décembre il y a eu le rendu et les personnes ont été déclarées coupables. Et il y a du ferme qui a été donné pour il y avait toujours rien dans le dossier, genre vraiment c'était un spectacle ce procès, mais l'État et la justice ont quand même décidé de les condamner à des peines de ferme et de sursis. Bon, il n'y a personne qui est retourné entre les murs puisque en vrai le ferme il l'avait déjà fait en détention provisoire, mais il y a personne qui est retourné entre les murs, mais il y a quand même des personnes qui ont du sursis et voire du bracelet, il me semble. Et globalement, l'État a pas, enfin la justice s'est pas dit ouais on a abusé, on vous a enfermé pour rien. Ils ont quand même mis des peines un peu lourdes pour justifier le fait qu'ils ont enfermé des personnes sans raison. Et il y a eu un appel et bientôt il y aura le procès de cet appel qui va avoir lieu. Voilà, donc ça fait beaucoup d'éléments dans cette histoire, mais voilà, donc ça fait beaucoup de prisons qui ont été données à ces personnes-là pour rien. Et enfin, cette histoire, elle est un peu. Et derrière, après le jugement, il y a quand même plusieurs journaux qui ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient été condamnées pour des faits d'extrême gauche et des volontés d'attentat et du terrorisme d'ultra-gauche, etc. Sans vraiment raconter l'histoire et le détail du vide du dossier. Et du coup, ce qui est un peu compliqué à comprendre dans cette histoire, c'est pourquoi. Pourquoi l'État s'est acharné à faire ça et monter un dossier de toute presse et s'acharner sur ces personnes. J'ai l'impression qu'on peut faire des hypothèses, ils avaient envie qu'on parle de terrorisme d'ultra-gauche pour que les gens en parlent. Oui. Peut-être, je les surestime, peut-être ils sont pas si machiavéliques et juste ils ont voulu lancer une enquête sur une personne et par fierté après avoir mis autant de moyens, ils ont voulu faire semblant qu'il y avait vraiment un truc. Ils sont plantés. Enfin, je sais pas, c'est difficile d'avoir une interprétation sur la fin des hypothèses sortent de nulle part. Mais c'est bizarre, quoi. Cette affaire, elle est un peu surprenante.
Et c'est quand même assez grave et ça peut aller quand même très loin. Moi, ça me fait quand même un peu penser à l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, dans laquelle lui s'est toujours dit qu'il y avait rien à voir avec la résistance qui a eu lieu sur le sol français par rapport au fait, et qui a dit que, je ne sais pas si c'est exactement sa phrase, mais qu'il avait quand même, du coup, à travers cet acharnement judiciaire, l'honneur de défendre la cause palestinienne et les actes qui avaient été faits sur le sol français, alors qu'on l'accuse de choses dans un dossier vide, et que là, les journalistes avaient exactement le même Le même discours de toujours dire que les personnes, de faire monter un peu la sauce. Même d'ailleurs, Edoui Plenel, qui est maintenant un peu la référence des fois, étant à, je sais pas s'il est directeur, mais en tout cas à Mediapart, à l'époque, il avait écrit des articles assassins sur Georges Ibrahim Abdallah, qui est quand même finalement resté 40 ans en prison. Donc c'est des faits qui, enfin c'est des façons de faire qui peuvent aller très très loin, et on retrouve un peu, j'ai l'impression, ce style de procédé d'État, d'accuser sans trop de preuves, mais en fait on s'en fout, on fait monter la sauce. Et
oui, c'est clair que c'est pas ça arrive que plus d'une fois que l'État fasse de la répression pour rien, je pense. On le sait, mais ce qui est étonnant avec cette histoire, c'est que c'est rarement aussi criant que là, vraiment, genre, le dossier de cette affaire est vraiment, vraiment vide. Et c'est vraiment étonnant à quel point ils ont fait ça de manière effrontée, sans se poser de questions. Voilà, du coup, c'est pas la première fois que l'État fait tomber de la répression sur des personnes pour aucune raison. Et du coup...
Je me demandais juste, y a des manières de continuer à soutenir par rapport au 8-12 ou...
Oui, alors là, j'avoue, j'ai plus la date en tête, mais on va vous la dire sans doute à la fin de l'audio qu'on va passer aujourd'hui. Mais en tout cas, si jamais vous voulez plus d'infos, il y a le comité du 8-12, enfin le site du comité du 8-12 qui est très bien fait et qui communique assez bien sur la question. Sinon, vous pouvez aussi acheter le livre de Libreflow qu'il a écrit sur son passage en prison.
Okay.
Et si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez nous le demander et on vous l'enverra gratuitement, comme d'habitude, évidemment. Et sans plus tarder, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup introduit. Maintenant, on peut lancer le...
Mais c'est super bien introduit, je crois.
Merci. On peut lancer l'audio. Et on se retrouve sous peu pour... Voilà, on se retrouve sous peu.
Pour la fin.
À tout de suite.
Ça va se lancer. Tout doucement, ça va partir.
Pourquoi il n'y a pas de son? Je l'ai trouvé.
Et ces deux petits sons, ils nous ont été envoyés par un camarade tout à l'heure depuis le Rassemblement internationaliste de soutien aux Kurdes de Syrie et d'Iran attaqués par HTC. Depuis le début janvier, ce gouvernement transitoire syrien et ses alliés turcs ont commencé à une nouvelle guerre contre les peuples opprimés du nord et de l'est de la Syrie. Ce soir, place de la Comédie à Lyon, c'était entre 300 et 400 personnes qui se sont réunies et qui ont fait une petite sauvage jusqu'à Bellecour pour faire résonner les slogans internationalistes. On pense donc fort aux personnes qui défendent la révolution et ses acquis là-bas, et on espère voir de nouveaux rassemblements, manifs internationalistes pour soutenir les Kurdes et le Rojava.
Il est 23h06, vous êtes à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu.
Depuis 2001, le terrorisme est devenu un sujet de préoccupation politique majeure en France, comme dans tous les pays occidentaux. Avec lui est arrivée la figure du terroriste, une incarnation humaine de la menace barbare face à laquelle nous sommes tous et toutes sommés de faire bloc. C'est cette figure, le terroriste ou la terroriste, qui justifie des pelletées de lois dites antiterroristes, qui donnent plus de pouvoir à la police et autorise toujours plus de surveillance de la population. S'opposer aux lois antiterroristes, chercher à comprendre comment le terroriste peut être aussi une construction policière et politique, comment l'antiterrorisme est un problème démocratique, ce serait être irresponsable et complice. Pourtant, depuis l'affaire de Tarnac en 2008 et surtout depuis l'état d'urgence en 2015, il est difficile d'échapper à l'usage politique du terrorisme comme moyen de répression des luttes sociales. Car c'est au nom de ce combat contre l'ennemi intérieur qu'on a vu se multiplier la surveillance de militants et militantes, les notes blanches, les arrestations spectaculaires, les gardes à vue à rallonge et les peines préventives passées à l'isolement. Tout cela, on le verra, fait système. Mais quand l'antiterror frappe à la porte, quand on se réveille avec des flics cagoulés dans la chambre à coucher, le premier réflexe n'est pas de se demander si l'antiterrorisme est plutôt un régime de gouvernement ou une forme de biopolitique. Ce jour-là, on est saisi à froid, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on flippe comme toute personne qui se retrouve emmenée dans un lieu inconnu avec une cagoule sur la tête. On est vite initié à l'intense pression des policiers de l'antiterror en interrogatoire, aux intimidations, aux manipulations. On apprend à s'en méfier, à les déjouer, dans les locaux de la DGSI, puis parfois en prison.
On devient attentif et attentive, on découvre que ce que ça fait d'être toujours sur ses gardes, d'avoir peur par un geste anodin, de nourrir un dossier qui tourne à vide. C'est de preuves fabriquées où tout et n'importe quoi devient une arme par destination, où toute sa vie est décryptée pour dresser ce portrait d'effrayant terroriste. Et progressivement, on prend conscience de l'engrenage dans lequel on a basculé. Car il s'est mis en route bien avant l'arrestation, quand le récit policier a commencé à s'écrire sur fond de filature, de mise sur écoute, de mille et une surveillances.
Cette rencontre avec l'antiterreau et son engrenage, c'est ce que les inculpés du 8 décembre nous racontent ce soir, dans le premier épisode de Minuit des Communes Décousues, consacre à leur rencontre.
L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice e ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo, bravo dottore, complimenti. Bravo dottore, bravo.
Bravo. Ma non applaudite, bene.
Vous avez invité à venir parler de l'affaire du 8 décembre 2020. Et du coup, on va en parler un peu de nos expériences personnelles par rapport à cette affaire, au procès, aux arrestations, et essayer de faire comprendre un peu à tout le monde de quoi il en retourne, même si c'est compliqué.
Et aussi, à quelques mois du procès en appel, du coup, on trouvait ça chouette de pouvoir reparler de l'affaire et parler de l'appel à venir.
Zvink, comité de soutien à Paris et inculpé aussi.
Moi, c'est Clo et comité de soutien à Paris qui a été arrêté aussi le 8 décembre 2020 mais relâché sans charge. Hey, don't you think it's
strange? Le 8 décembre, il y a eu une vague d'arrestations un peu partout en France, dans plusieurs régions de France. On va pas les citer parce qu'elles sont un peu longues, mais il y a eu 9 personnes arrêtées qui ont passé 96 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI. Et à la suite de ces 96 heures, 7 seront inculpés pour association de malfaiteurs terroristes dans l'intention de s'en prendre aux personnes dépositaires de l'ordre public. Un truc à peu près comme ça dans le chef d'inculpation, une très longue phrase. Sur ces 7 inculpés, 5 seront en prison préventive dans différentes prisons d'Île-de-France.
RTL Soir, avec Stéphane Carpentier.
La suite du journal de Céline Landreau avec une opération antiterroriste assez inhabituelle puisqu'elle vise l'ultra-gauche. 9 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'avoir voulu préparer une action violente.
Ces membres appartiennent à l'ultra-gauche, selon l'expression du parquet antiterroriste, et plusieurs étaient connus des services pour leur activisme radical. S'ils ont été arrêtés cette semaine, c'est en effet parce qu'ils auraient évoqué un projet d'attentat. Alors prudence, souligne une source judiciaire, on ne connaît pas à ce stade les cibles qui auraient pu être visé, ni le degré de préparation du groupe. Il faut également rappeler que la dernière affaire de terrorisme présumée liée à l'ultra-gauche remonte à 2008 et au groupe de Tarnac, soupçonné d'avoir saboté des lignes TGV. Le dossier avait fini en un naufrage policier.
On était en couple et on l'est toujours, donc moi t'as un double témoignage, ce sont deux personnes qui ont vécu l'arrestation. En gros, nous c'était 6h du mat, elle entend du bruit, pensant que c'était des cambrioleurs. Et moi je me lève dans la foulée, je vois des faisceaux lumineux dans le salon. Je me mets devant en gueulant, pensant que c'était des cambrioleurs, en mode « mais tu fais quoi ?» Enfin, je sais plus trop ce que je gueule. Là, je me fais attraper par l'épaule, jeté au sol, tiré par les dreads, et je me retrouve avec un fusil sur la tempe. Ça fait assez bizarre, de 6 du mat, donc déjà ça te met un peu en état de choc. Là, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas.
Il y avait une dizaine de personnes, je dirais.
Ouais, c'était le GAO, groupe d'appui opérationnel, une antenne policière dédiée spécifiquement à la DGSI.
On pourrait comparer un peu au RAID, je pense, casque, fusée d'assaut, etc. Enfin, oui. Voilà, c'est le même.
Oui, des gros marmules cagoulées, surarmées. Bon, là, il y a un peu de flou assez vite. Il y a le terme justement terro qui vient, mais je ne saurais plus te dire exactement dans quelles conditions. C'est un peu bordélique. Enfin, sur ce moment-là, tu penses un peu, alors, oh, je suis en train de me faire braquer par des gens. Il y a plein de flics chez moi. Il y a mes chiens. Enfin, il y a ma copine. Enfin, tu mélanges un peu tout dans ta tête à ce moment-là.
Bah déjà, on comprend assez vite. Oui. Il nous parle d'une perquisition qui a lieu en même temps, parce qu'on habite aussi des fois sur un terrain dans le sud de la France. Et au bout de, je dirais, même un quart d'heure, 20 minutes, il nous explique que cet endroit est perquisitionné en même temps chez sa mère. Et donc là, on rentre dans une deuxième dimension aussi, quoi. Parce qu'on se dit, waouh, ils sont en train de perquisitionner en même temps à 6h du matin un lieu à l'autre bout de la France. Il nous précise qu'on est mis en garde à vue à partir de cette heure-là, et il nous demande les choses habituelles. Est-ce qu'on veut voir un médecin? Est-ce qu'on a un avocat? Un des trucs assez dingues, c'est que ça a duré une douzaine d'heures, cette perquisition. Donc de 6h du matin, j'ai été emmenée à 14h dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret. Mais de ton côté, je sais que t'es restée jusqu'à quasiment
19h, en tout cas.
Ok, donc voilà, c'était vraiment une très très longue perquisition. Il faisait très froid, tout était grand ouvert, parce qu'il y avait une quarantaine de personnes qui faisaient des allers-retours dans la maison. Ils ont attendu plusieurs heures avant de nous habiller, donc on est vraiment congelés dans le froid. Pas d'eau, pas de nourriture pendant tout ce temps-là. Et voilà, juste des personnes qui déambulent. Moi, j'ai pas assisté aux perquisitions en elles-mêmes. J'étais mise de côté, quoi. Et c'est pour ça que quand ils voulaient perquisitionner différentes pièces, à un moment, ils ont décidé de m'emmener dans les locaux pour pas qu'on puisse se croiser.
On n'est pas sur une perquisition, on va dire, standard, de flics standard qui retourne tout chez toi. C'est extrêmement méticuleux. Tu as une personne dédiée qui part vraiment du début à la fin, fait pièce par pièce, recoin par recoin. Et d'ailleurs, il a lâché sa petite larme parce que, en gros geek que je suis, il a dû ouvrir et vérifier un peu plus de 1000 mangas à l'époque. C'est un bon moyen de défense, les bouquins, du coup, par rapport à la DGSI. Ça fait beaucoup de choses à ouvrir et vérifier. Le moindre disque dur, la moindre clé USB est un scellé. Donc un scellé, ça met une vingtaine de minutes à faire, le temps qu'ils aillent chercher le carton adéquat, le tampon, etc. Parce qu'on bosse tous les deux dans le spectacle. Enfin, on a toujours bossé. À l'époque, j'étais artificier. Elle bosse dans le cinéma. On a toujours bossé dans le spectacle. Donc autant te dire que des disques durs et des clés USB d'images et de... Enfin, comme vous à la radio, vous en avez des kilomètres, des... Donc ça fait beaucoup de scellés. Donc ouais, ça a duré toute la journée pour perquisitionner chez nous. Jusque 3/4 de la journée, c'était déjà écoulé. Et ils voyaient qu'ils n'auraient jamais le temps de tout faire. Ça devenait déjà un peu plus menaçant. C'était un peu moins dans les normes. Là, tu vois, il y avait les cagoulés. Un qui me dit clairement, ça serait que de moi, tes chiens, je les aurais butés. T'as eu de la chance. Et ça commençait à être un peu plus violent, parce qu'ils étaient agacés. Ils en avaient marre d'être là. Enfin, nous aussi. Voilà. Moi, j'ai eu le passage des mineurs. Aussi, vu que l'artificier à l'époque. Donc le démineur qui a fait le tour de la maison complet avant, pour vérifier qu'il n'y avait rien de dangereux. Et oui, si, c'était l'après-midi aussi, où il y a eu ce fameux petit montage avec des déchets pyrotechniques. Parce que j'avais plein de merde. Enfin, je faisais des effets spéciaux, j'avais toujours plein de déchets, des trucs qui traînaient. Et ils ont mis carrément fait une petite mise en scène, gentiment, avec des déchets pyro, des piles usagées, des vieux morceaux de tubes d'artifice, des inflammateurs usagés.
Interpellé, action violente. Couteau et des fusils de chasse, radical.
Avec un petit carton légèrement déchiré en disant « Ah, c'est une préparation d'une bombe ». Bon, le carton déchiré s'avère que c'était un meuble en kit. C'est pas grave, hein. Fallait juste regarder ce qu'il y avait dans le carton. Tout irait bien, il était entrouvert, mais bon. Genre, on trouve rien, on trouve 3 bouquins politiques, c'est pas assez, c'est un peu chiant. Bon, vas-y, on a un artificier, on va prendre ce qu'il zone un peu chez lui et on va poser ça gentiment, bien étalé sur la table, comme si c'était un truc en préparation. Et tu fais, non, mais gros, tu viens de le récupérer dans une caisse qui traînait dans un coin, au milieu de trucs de plomberie et d'autres. Enfin, c'était un peu grossier, quoi, mais tu sens que, vu qu'il n'y a rien, il faut créer de la matière, quoi.
Ils ont quand même pris en photo et ajouté au dossier, du coup, ce montage qu'ils ont fait.
Explosif. Cible. Attentat. Terrorisme.
Donc on revient sur la problématique d'avoir accès aux dossiers, etc. Pendant des mois, mes avocates me demandaient qu'est-ce que c'était que ce pipe bomb, parce qu'ils appelaient ça un pipe bomb dans leur truc. Je fais, mais je sais pas de quoi tu parles. Enfin, je vois pas. Jusqu'au jour où j'ai eu accès à la photo, je fais, mais c'est un meuble en kit dedans. C'est les tubes pour faire des meubles style un peu plomberie. C'était ça. Montrer qu'en fait, des trucs banals comme ça, ça met des mois à y avoir accès. Et du coup, toi, tu psychotes parce que tu dis de quoi on me parle. On me reproche des trucs qu'en fait, qui ne sont pas. Tu comprends pas les choses, tu psychotes sur des choses. Et quand tu as enfin accès au dossier, tu fais... Pff, C'est de la merde. Enfin, faut appeler un chat un chat.
Des composants entrant dans la fabrication d'explosifs ont également été saisis, et cela en région parisienne.
De la maison, ils te mettent une cagoule blanche sur la tête avec un tissu qui fait qu'on voit un peu les ombres, mais on voit rien, soi-disant pour te protéger, que les voisins, etc., te voient pas. Ils te la laissent dans la voiture, enfin tout le long, pendant les 1 heure de trajet jusqu'à la DGSI. Et cette camisole, c'est pareil, enfin c'est encore un moyen pour te terroriser et te mettre en état de choc, parce que en plus des menottes, donc tout le temps de la perquisition, on était menottés. Et là, c'est carrément une camisole qui te bloque les bras le long du corps avec des sangles. Et donc, t'es vraiment complètement entravé, quoi. Donc ça, c'est... Moi, j'ai trouvé ça ultra violent, cette histoire de camisole. Et c'est, ça a été le cas. Enfin, on l'a découvert après dans le dossier. Ça a été le cas pour toutes les personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. On saura donc que c'est à différents endroits en France et que tout a eu lieu à 6h du matin en même temps. Grosse équipe mobilisée dans à peu près 5 ou 6 lieux dans toute la France. Après les perquisitions, ils ont rapatrié à Paris tout le monde, et donc certains en avion, en train.
Il faut savoir que nous, les conditions qu'on a eues, cagoulé et camisole, étaient les mêmes pour les autres. Donc eux ont vécu la même chose, mais en train et en avion. Donc à la vue du public, c'est un peu de l'humiliation ultime. Ça fait vraiment la bête de foire que tu trimbales. Nous, entre guillemets, on a eu la chance qu'on on a fait maison, voiture, cellule. Eux, ils ont fait maison, train, voiture, avion. Enfin, laisse tomber l'enfer d'avoir une cagoule sur la tête pendant des heures et des heures. Enfin, je ne veux même pas me mettre à leur place pour ça, quoi. Ça doit être horrible.
Novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en France.
2008, le village de Tarnac se réveille avec l'interpellation de 9 de ses résidents, des militants proches de l'ultra-gauche. Ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le sabotage.
Dans l'actualité ce soir, une vague d'arrestations après les actes de vandalisme.
Mais où est passé le coupa qui avait surgi sur nos écrans il y a 10 ans?
150 policiers cagoulés. Des hommes de l'antiterrorisme.
Un lieu de sabotage,
le village
où devait passer un train transportant des déchets nucléaires. Ils ont toujours nié les faits reprochés, mais les meufs de Tarnac sont mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de
ce qui a précipité les arrestations, c'est un sabotage commis 4 jours plus tôt sur une ligne TGV. Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Elles seront mises en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Le 28 mai 2009, Julien Coupa est le dernier.
Militant d'ultra-gauche ou anarchiste.
Voici Julien Coupa.
Le cerveau du groupe Julien est originaire du 16e
arrondissement. Avec ses principaux lieutenants.
Désigné leader d'un groupe terroriste, organisateur du sabotage.
Le 11 novembre 2008, dans un village de la Corrèze, a lieu une arrestation filmée par l'œil avide des caméras de télé. Et pour cause, les flics ont sorti les grands moyens. Près de 150 policiers cagoulés, l'hélico, plusieurs lieux perquisitionnés et 9 personnes placées en garde à vue. Il s'agit de la désormais célèbre affaire Tarnac.
Les 9 personnes embarquées sont soupçonnées d'avoir posé des crochets pour arracher des caténaires et stopper des TGV lors de leur passage dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008 dans l'Oise, Lyon et la Seine-et-Marne, provoquant un joli bazar et des milliers de voyageurs et voyageuses en galère. Mais lorsqu'on les arrête en 2008, c'est sous le coup de l'antiterror.
On apprendra que le groupe était placé sous surveillance depuis la présence du prétendu leader charismatique Julien Coupa et de sa compagne Yildun Levy à une réunion d'anarchistes en janvier 2008 à New York et leur passage clandestin de la frontière américo-canadienne. On parle de policiers britanniques infiltrés, de militants d'extrême gauche allemande, grecque ou italien et de manifs violentes lors de sommets internationaux. Avant même la fin des perquises, Michel Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur, parle d'ultra-gauche et de mouvance anarcho-autonome et dénonce des risques de résurgence violente de l'extrême-gauche radicale.
À l'issue de leur garde à vue, 9 personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. 5 sont emprisonnées.
Alors, au début, c'est un peu flou. Faut un peu avouer que c'est pas très très clair pour les personnes qui sont arrêtées. Assez vite, on apprend le terme terroriste, mais donc personne comprend. Et en fait, c'est les perquisitions ajoutées, ce qu'on découvrira plus tard, être carrément on peut dire le roman de la DGSI.
La construction policière.
Ouais, voilà, la construction policière
du dossier.
Et qui dit que les inculpés voulaient s'en prendre aux forces de l'ordre, etc. On découvre avec les mois qui passent que les gens ne se connaissent pas tous et toutes, qu'en fait ça tourne essentiellement autour d'une personne qui sera nommée plus tard Libre Flo, qui est revenue du Rojava pour avoir combattu Daesh aux côtés des Kurdes et soutenue par la coalition internationale. Et en fait tout un dossier s'est monté autour de lui pour en fait monter un scénario de terrorisme. On sait que Libre Flo a été tracé par la DGSI. Donc ça, ça fait aucun doute. Mais ce qui n'est pas très très clair, c'est à partir de quand et pourquoi d'autres inculpés, dont moi, ont aussi été suivis. En fait, il y a une grosse partie d'inconnus. On a une date de début de procédure, à partir de telle date, ceci, cela. Mais il y a tout le avant où c'est clairement du off. Et on ne sait pas qui, quoi, comment, pourquoi. Mais ce qui en est très vite ressorti avec le temps et l'étude du dossier. Parce que bon, ça on le redira plus tard, mais le dossier, pour beaucoup, on l'a eu très très tardivement, voire presque un an après. Dans le contexte terroriste, tout est de l'exception. On n'est plus dans le droit commun. La dernière affaire, c'était 10 ans avant. Tout le monde est largué. Clairement, tout le monde est largué et tout le monde marche sur des œufs. Donc on peine à avoir les informations, on peine à comprendre les tenants et les aboutissants. Et par-dessus ça, il y a toutes les paranoïas qui s'installent, qui vont avec une accusation terreau. Ce qui fait que tout le monde a peur, ne serait-ce que d'allumer son téléphone, de juste prendre des nouvelles. Et donc il y a un flou. Et vu que les inculpés ne se connaissent pas entre eux, eh ben, ça fait qu'on est dans le flou vraiment pendant des mois et des mois et des mois et des mois. En fait. Là, je vais parler que pour ma part, mais pour ma part, le début de compréhension des tenants et aboutissants s'est fait un an, peut-être un an et demi après, à dire « Ah ok, je cerne vraiment l'envers du décor ». Je sais, maintenant je comprends pourquoi on s'est fait arrêter, quelles sont les intentions derrière, etc. Mais sur le moment, t'es largué, enfin, faut appeler un chat. Donc la DGSI fait une enquête préliminaire, pourquoi, on ne sait pas, sur nous. À partir de là, elle file son dossier au parquet national antiterroriste, qui se saisit de l'affaire et mandate la DGSI pour nous surveiller. C'est très très objectif encore.
À partir du 7 février 2020, le PNAT, le parquet national antiterroriste, est saisi. Et à partir de là, en fait, toutes les demandes qui sont faites dans l'enquête apparaissent, nous, dans le dossier. Donc en fait, nous, le dossier commence à cette date du 7 février 2020. Et à partir de là, à chaque fois qu'il y a une géolocalisation demandée, une balise GPS ou des recherches sur quelqu'un, ça apparaît, il y a à chaque fois un procès verbal qui est établi. Mais avant ça, bien sûr, on n'a accès à rien, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans les notes blanches. Et à partir de là, le dossier commence avec tous les procès verbaux. Et c'est ce qui nous a permis, quelques années plus tard, de connaître un peu l'étendue des recherches, du fichage, de tout ce que la DGSI pendant quasiment un an de toutes les recherches qui ont été faites sur les personnes.
Officiellement, le dossier commence avec l'enquête du PNAT, ce qui est assez paradoxal. Tu commences une enquête et tu as déjà des micros qui sont déjà tous posés depuis longtemps, des filatures qui sont déjà instaurées. En fait, tu débutes quelque chose qui est censé débuter, mais tu as déjà tout. C'est bon, ça, on notera l'ironie de la situation. Quoi. des poses de micro dans des véhicules, suivis géolocalisés, suivis en direct, parce qu'on a des photos, on est suivis dans la rue. Des filatures, ouais. Moi, il y a des photos de moi où je suis en train de sortir mes chiens, t'hallucines, enfin bref. Un peu tous les moyens possibles et imaginables, bon après forcément les habituels, le suivi téléphonique, dans les trucs traditionnels, mais dont la pose de micro, filature poussée et MC catching, des choses comme ça.
Concernant les téléphones, donc il y a les FADET. En gros, une fois qu'ils ont réussi à affilier à une personne un numéro de téléphone, les FADET, c'est tous les numéros qu'on a composés, et donc ceux qui reviennent le plus souvent. Ça leur permet de voir avec qui on communique le plus. Et donc ensuite, ces personnes avec qui on communique le plus sont elles aussi mises sur écoute, etc. Donc en fait, ça fait tout un espèce de réseau pieuvre où ils établissent des connexions entre les gens. Et quand ils n'arrivent pas à filer un numéro de téléphone à une personne, c'est là où ils utilisent l'IMSI catching. Donc l'IMSI catching, c'est une antenne relais, je crois qu'ils peuvent le mettre dans un sac à dos ou dans un véhicule. Et quand ils suivent quelqu'un en filature, tout simplement, ils l'ont avec eux. Et donc si on a un téléphone avec soi, ça borne automatiquement sur cette antenne relais qu'ils ont, qu'est l'IMSI catching. Ça leur permet de pouvoir dire, bon, bah, cette personne, on n'arrivait pas à savoir quel numéro elle avait, est-ce qu'elle avait acheté une carte SIM ou je sais pas quoi. Et donc du coup, paf, ils peuvent connaître le numéro. Pareil, dans un lieu, s'ils veulent surveiller par exemple un lieu, un squat ou un lieu de réunion ou quoi, ils mettent un IMSI catching devant le bâtiment et ça leur permet de savoir toutes les personnes à l'intérieur qui bornent avec un téléphone. Voilà, donc c'est des techniques. Là, on parle de 2020. On est en 2025 aujourd'hui. Peut-être qu'il y a encore d'autres techniques, mais en tout cas, il y a 5 ans déjà, ça allait assez loin et ça leur a permis assez vite de connaître toutes les connexions, interactions entre pas mal de personnes.
Les autorités ont ordre de ne pas nous parler. Le procureur a missionné la police judiciaire sur l'enquête. Une revendication est arrivée par courriel chez nos confrères du Populaire du Centre. Pêle-mêle, elle parle d'oiseaux tués, mais surtout de compteurs Linky, de nucléaire et de sabotage, en donnant la définition.
Le 15 juin 2021, les keufs déboulaient en grand nombre dans 6 lieux différents de Haute-Vienne et de Creuse. Une quinzaine de personnes subissaient alors des braquages à main armée, perquisitions ou interrogatoires de la part de dizaines de flics suréquipés, parmi lesquels la SDAT, sous direction de l'antiterrorisme, ou PPSIJ, peloton spécial d'intervention de la gendarmerie. Dans les médias, on apprend alors que l'enquête est liée à des dégradations matérielles ne mettant pas en danger les vies humaines, l'incendie de véhicule Enedis en janvier 2020 et l'incendie d'antennes de télé, radio, téléphonie à Car, au sud de Limoges, en janvier 2021.
Les perquisitions sont longues et minutieuses. Elles ont lieu sous statut de témoin et de témoin assisté, avec des fouilles intégrales des maisons, des saisies de matériel informatique, des prises de notes sur les différents livres politiques et autres documents militants, des prises d'ADN et puis des interrogatoires. La police débarque chez des gens suspectés de rien pour ficher leurs lectures et leurs empreintes génétiques. Le coup de pression vise alors l'ensemble du milieu militant local, parmi lesquels une chorale militante de Limoges et le site mutu local, labog.info. Parmi les personnes arrêtées, nombre d'entre elles feront plusieurs jours de garde à vue et certaines sortiront avec plus d'un an de contrôle judiciaire. Le 19 et le 20 mars prochain, le procès de l'affaire dite du 15 juin se tiendra à Limoges pour les inculpés de l'affaire.
De la garde à vue en antiterro, donc on est au 4e sous-sol de la DGSI à Levallois-Perret, qui a un couloir avec une dizaine de cellules, toutes insonorisées les unes des autres, avec une grosse porte vitrée où on n'entend vraiment rien de ce qui se passe, ni dans les cellules d'à côté, ni dans le couloir. Il y a des néons blancs quasiment 24 sur 24, je crois que la nuit ça s'éteint un peu, mais il y a quand même encore de la lumière. Il fait très froid, il y a une caméra. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais réussi à avoir un... parce qu'ils m'ont ramené sur une autre perquise. Puis je suis revenue et entre-temps, j'avais demandé un pull avec une capuche. Et donc, je mettais ma tête sous la capuche. Et en fait, dès que je mettais la tête sous la capuche, il venait me voir en me disant sur la vidéo, on voit que, enfin, il faut enlever la tête de la capuche, etc. Donc ça veut dire que t'es vraiment surveillé, quoi. Enfin, regardez en direct. Et en fait, les heures passent, on n'a aucune notion du temps, bien sûr. On est beaucoup auditionnés, donc dès l'arrivée, le soir même, on est tous auditionnés. Ça dure, les auditions durent longtemps. Au moment de la première audition, pour le coup, moi, par exemple, j'avais pas mangé depuis 36 heures et à peine bu de l'eau. Donc on est dans des conditions où vraiment, on est vraiment au bout de sa vie, quoi. Et même sur les 4 jours, je dirais qu'au niveau des repas, vraiment, on mange très peu. Vraiment des notions du temps complètement déphasées. À des moments, t'essayes de dormir, mais en fait, ils voient sur les vidéos que t'es en train de t'endormir. Donc paf, ils viennent te chercher pour te refaire une audition. Donc t'es vraiment... voilà, t'essaies de dormir un peu, te reposer, et ils viennent te chercher. T'es interrogé quand même plusieurs fois par jour. T'es assez malmené psychologiquement, quand même, je dirais. Et le fait, voilà, des lumières, insonorisées, t'es coupé dans un espèce de monde parallèle pas très cool.
Du temps, c'est un peu la même. Les 4 jours, c'est juste une journée qui ne s'arrête jamais. Déjà, quand j'arrive, bah forcément, cagoule sur la tête. À ce moment-là, j'ai plus des perceptions de son. J'ai pas l'image, j'ai que le son, donc je me concentre vachement sur ce que j'entends. Je sors d'une voiture, je passe une porte, je comprends que je suis tout de suite dans des bureaux parce que j'entends des bruits de clavier, j'entends du brouhaha de gens qui sont dans un bureau, comme un peu un open space. Et là, j'ai vraiment le sentiment, genre, que je suis un trophée qui traverse une pièce. Enfin, à ce moment-là, je vois pas, mais je sens que tous les regards sont portés sur moi et je retraverse une porte. Et assez vite, on me met dans une petite pièce où là, on m'enlève la cagoule, on prend mes effets personnels et on me met tout de suite dans une cellule en face de cette petite pièce. Et à partir de là, c'est vraiment le temps qui n'existe plus, quoi. T'as une lumière constamment, comme elle dit, t'as des rideaux sur la cellule. Donc moi, sur le moment, je suis persuadé d'être dans les cellules du tribunal de grande instance de Paris. Parce que enfin, la config de la cellule me fait penser à ça. Donc je me dis, bah, je suis en dessous du tribunal, donc je vais passer là au tribunal, et puis bah, ça va s'arranger parce qu'il n'y a rien. En gros, dans ma tête, je vais aller dans 24 heures, 48 heures, je suis dehors, grand max, et on n'en parle plus, quoi. Bon, c'est une journée sans fin. Chaque inculpé est auditionné par le flic qui a géré son dossier. Donc moi, celui qui m'interroge, en fait, c'est le gars qui connaît ma vie par cœur, qui s'est focalisé sur moi. Je vais dire que l'interrogatoire, c'est un peu, je vais pas dire standard, mais ça commence gentiment avec des questions un peu banales, très orientées politiquement dès le début. Qu'est-ce que je pense des gilets jaunes, de Macron, de ceci, de cela. Donc, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je fais, bah, ça raccorde encore avec les manifs. Enfin, t'acceptes pas encore ce truc de terreau, t'es en mode, bon, bah, il y a vraiment ce coup de... parce que j'ai fait une manif et qu'ils doivent me confondre avec quelqu'un d'autre et qu'il y a eu un truc de fou qui s'est passé, mais du mal à comprendre. Et par la suite, là, je comprends que justement, c'est lié aux copains... Enfin, au fil des interrogatoires, que c'est lié aux copains Libreflow. Mais encore merci à mes avocates. Vu que tu gardes le silence, du coup, les questions te font plus apprendre de choses que ce que tu leur en donnes, en fait. Mais on reste encore sur des questions, enfin, pour me concernant... assez ballot, quoi. Enfin, pas ballot, mais ça va pas tout de suite dans profondeur.
Et coucou, on est de retour à l'antenne. On met en pause ce podcast de Minuit Décousu sur l'affaire du 8-12. Et on vous mettra la suite prochainement.
Oui. Pardon, j'avais pas poussé mon potard pour mon micro. J'étais pas sûr de pouvoir prendre la parole. Le direct de la radio.
Donc dans quelques minutes, il y a Perche 3000 qui prend la suite. Et on vous recommande chaleureusement cette émission. Il nous reste à peu près 6 minutes pour caler tous les petits trucs qu'on veut.
Ok.
Rajouter. C'est parti.
Tu veux que je commence ?
Ouais.
Je voulais juste commencer par citer un peu la phrase de Georges Ibrahim Abdallah lors de son procès, que je trouvais un peu éclairante sur comment essayer de comment dirais-je, retourner un peu la situation. Lui qui a passé 40 ans en prison, en tout cas, il a déclaré à son procès, où pareil, son dossier était vide. Il a déclaré « Si le peuple ne m'a pas confié l'honneur de participer à ces actions anti-impérialistes que vous m'attribuez, au moins j'ai l'honneur d'en être accusé par votre cour et de défendre leur légitimité face à la criminelle légitimité des bourreaux. »
Et merci Georges.
Et voilà, je voulais juste dire que on a fait une émission un peu sur la répression politique, mais que c'était aussi pour faire une entrée, une façon d'entrer aussi dans la répression et les prisons, mais que
on reste contre la tôle, même quand elle est contre le commun des mortels et pas des militants.
Ouais. Et juste pour parler aussi un peu de l'État raciste et faire un peu de pont et de lien avec ce qu'on a dit avant dans la brochure du comité Libéré Ali, il y avait un peu des petites phrases que je voudrais citer là, qui est comme quoi la détention pénale à l'enfermement administratif, c'est quand même un dispositif qui ne concerne pas seulement Ali. Donc il s'inscrit dans une tendance européenne lourde, déjà à l'œuvre en Belgique, en Italie et ailleurs, où des réfugiés palestiniens et palestiniennes sont ciblés, enfermés et menacés d'expulsion. Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farage Allah s'est donné la mort dans un centre fermé en Belgique, et que son décès révèle l'ampleur des violences institutionnelles exercées contre les militants et militantes palestiniens et palestiniennes. C'est un peu pour parler un peu plus de ce système raciste qui est l'État, notamment l'État français.
Yes. En tout cas, pour revenir sur le podcast, merci beaucoup à Minute d'écoute pour cette émission. Merci beaucoup aux personnes qui ont été arrêtées, perquisitionnées, d'avoir livré leur témoignage et d'avoir partagé, d'avoir un peu mis du clair sur cette affaire. Cette semaine, en parlant de violence d'État, de manière générale, il y a un événement appelé par l'association SAVE, soit pour violence d'État, et notamment à l'initiative de Issem, le père de Souheil, contre la loi 435-1 qui autorise la police à tuer des personnes, en gros.
Carrément, à faire usage de leurs armes à feu beaucoup plus fréquemment qu'avant, et à jouer au cowboy comme d'habitude, quoi. Mais ça entraîne la mort.
Et du coup, il y aura une exposition révélée au Vieux-Port le 26 avril toute la journée.
C'est combien ?
Le 26 avril, c'est-à-dire. 26 avril, okay. Dimanche prochain. Donc dimanche prochain, avant d'écouter La Courte Échelle, vous irez tous et toutes sur le Vieux-Port si vous pouvez, que vous n'êtes pas en prison, assister à cette exposition proposée par Stop aux violences d'État. Mais je pense qu'il n'est pas impossible que l'émission qui nous suit en dise un petit peu plus, donc on ne va pas trop s'étendre ça et on va laisser l'antenne. En vrai, il y a encore beaucoup à dire sur le 8-12 et on en dira plus quand on passera à la suite des podcasts sur les prochaines semaines. Mmh. On se laisse, on se dit grosse force à toutes les personnes dedans.
Carrément.
Et
gros soutien, on va essayer de continuer à faire la solidarité avec les personnes enfermées, les personnes autour, les familles et autres.
Les personnes en CJ, grosse force et à la semaine prochaine.
Grave.